d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Fabien. Bonjour Fabien.
Bonsoir.
Avec Hervé.
Bonsoir.
Et avec Ludo, bien sûr.
Bonsoir.
Merci à tous les trois de venir faire cette émission avec moi. C'est Gilles au micro. Et bien sûr, Claude à la technique, comme tous les vendredis soirs. Voilà. Alors ce soir, on va faire une petite émission spéciale Charlie Hebdo, parce que quand même, il s'est passé quand même quelque chose d'important à la rédaction de Charlie Hebdo, comme tout le monde le sait maintenant, puisqu'il y a eu 3 millions de personnes dans la rue. Nous allons parler donc de Charlie Hebdo en première partie de l'émission et ensuite nous parlerons évidemment de la loi Veil en deuxième partie de l'émission. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons été à la manifestation pour rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo et puis également aux autres victimes. Donc il y avait un policier, puis des juifs, voilà.
Deux policiers.
Enfin, trois en comptant la policière municipale.
Très juste, voilà. Et donc nous avons fait quand même, j'ai fait un peu de son sur place. Donc on va écouter d'abord ses premières impressions. C'était un peu bon enfant, enfin bon enfant. J'ai pris au hasard les gens et puis j'ai posé quelques questions, savoir s'ils avaient déjà lu Charlie, pourquoi ils étaient ici. Présent à la manifestation aussi. Et ensuite, nous parlerons bien sûr ici de nos impressions par rapport aux événements qui se sont produits chez eux. Et voilà. Écoutons d'abord l'enregistrement. Bonjour madame.
Bonjour.
Est-ce que vous lisez Charlie, madame?
J'avoue, non. Je crois que je l'ai lu une seule fois.
D'accord. Donc vous êtes là par solidarité avec ce qui vient de se passer, là?
Oui, je suis là pour montrer surtout qu'on est beaucoup plus nombreux, que les terroristes ne seront jamais, et voilà. C'est ça que je veux montrer.
D'accord. Est-ce que vous savez que les premières victimes des terroristes, ce sont les musulmans?
Oui, je sais.
Merci beaucoup, madame.
Je vous en prie.
Je vais vous poser une question, madame.
Oui.
Vous êtes lectrice de Charlie?
Non.
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 Vous êtes là par solidarité, en fait?
Tout à fait.
D'accord. Bonjour, madame.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes lectrice de Charlie Hebdo?
Non, pas particulièrement.
Vous n'avez jamais lu?
Si, ça a dû m'arriver, mais je ne suis pas une lectrice régulière.
D'accord. Actuellement, vous êtes ici parce que vous êtes solidaire, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Que pensez-vous de ce qui s'est passé, alors?
Sur ce qui s'est passé en France? C'est compliqué de commenter ça. Hein. Terrible. Ouais. Beaucoup de douleur, je pense. Voilà. Et puis là, on prouve qu'on est tous rassemblés pour quelque chose d'important.
Vous savez que les premiers ennemis des djihadistes, ce sont les musulmans.
Ce sont les
musulmans.
Oui, bien sûr.
Bonne manif, madame.
Merci.
C'est une défense pour la liberté, pour la République, pour la liberté, l'égalité, la fraternité, tout simplement. Ça se réduit à ça. Et un grand hommage surtout et puis beaucoup de choses à la famille de tous ceux qui sont restés sur le carreau, quoi, malheureusement. Voilà.
Vous êtes un lecteur de Charlie Hebdo?
Oui. Oui, d'accord. Je dois en avoir quelques 600 numéros chez moi.
D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes lectrice de Charlie Hebdo?
Je lisais à l'occasion, de temps en temps.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce journal, alors?
Très provoque, mais c'est important qu'il soit là dans le paysage français, je pense.
Vous faisait rire?
Oui, même si. Oui, quelquefois c'était un peu hyper trash, mais c'était quand même souvent très drôle.
Vous pensez que la caricature, en fait, et le rire, c'est la meilleure façon de lutter contre l'obscurantisme?
Pas que. Non, je pense pas. Il y a aussi. Il faut que toutes les formes de presse travaillent contre l'obscurantisme. Il n'y a pas que les dessins, il y a tout. Mais c'est une partie importante. Et puis c'est vraiment une partie de notre culture aussi. C'est très important en France.
Très bien. Merci beaucoup, madame. Vous êtes lectrice aussi de Charlie Hebdo?
Non, moi j'étais pas du tout lectrice.
Vous venez de quel endroit exactement?
Je suis parisienne.
Vous êtes parisienne?
Oui.
D'accord. Que pensez-vous de ce journal? Vous avez vu éventuellement des photos, des images?
Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je ne l'achetais pas, mais que ça n'empêche pas du tout de soutenir tout ce qui se passe depuis 3 jours et que... Il y a plein de journaux que j'achète pas et c'est pas pour autant que je voudrais qu'ils disparaissent ou qu'on je voudrais qu'ils puissent pas paraître.
Merci beaucoup, madame. Monsieur ?
Oui, bah, j'étais lecteur occasionnellement.
D'accord. Voilà. Et que pensez-vous de ce journal par rapport ? Parce qu'il était quand même assez, des fois un peu agressif, comme carrément agressif.
Non, carrément agressif. Après, je pense que la satire est une grande tradition française. Et de ce fait-là, je pense qu'il avait toute sa place dans le paysage. Après, en effet, il pouvait être agressif, provoque, parfois à l'extrême, mais c'était dans la ligne de ce qui s'était fait en France depuis déjà longtemps.
D'accord. Vous connaissez le journal Rivarol ?
Oui, en effet.
Alors, s'il se passait la même chose sur la rédaction de Rivarol, vous seriez dans la rue aujourd'hui ?
Probablement pas.
D'accord. De quelle raison ?
Pour des raisons de positionnement idéologique.
Merci, monsieur. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Donc, est-ce que vous pensez que l'humour, la caricature, peut éventuellement aider contre l'obscurantisme ?
Je pense qu'effectivement, on a le droit de rire de tout, surtout dans la société d'aujourd'hui et la liberté d'expression. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes un lecteur assidu de Charlie, monsieur ?
Je l'étais à une époque.
D'accord. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Parce que Charlie Hebdo a conduit ma jeunesse, j'ai 52 ans, et ils ont conduit l'impertinence, ils ont conduit la joie de vivre, ils ont conduit les règles de la République et la liberté d'expression.
D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le rire et la caricature peuvent encore battre l'obscurantisme ?
J'espère.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes lecteur de Charlie ?
Non.
Non. Et vous ?
Non plus.
D'accord. Alors, vous êtes ici par solidarité, alors ?
On est ici parce que même si on n'est pas lecteur, on n'a pas besoin d'être lecteur du journal pour être outré et choqué par ce qui s'est passé.
Est-ce que vous pensez que la caricature et le rire peut être un modèle pour combattre l'obscurantisme ?
Absolument. Pierre Desproges a dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On peut rire de tout et on l'a bien vu cette semaine, on peut pas rire avec n'importe qui, malheureusement. D'accord. Mais il faudrait que ce soit le cas, en fait.
Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes lecteur de Charlie ?
Oui.
Assidûment ou de temps en temps seulement ?
De temps en temps seulement.
D'accord. Alors, vous êtes ici par solidarité ?
Par solidarité, évidemment. On ne pouvait pas laisser passer une telle occasion de ne pas manifester notre mécontentement.
D'accord.
C'est le jour J, c'est le moment ou jamais de lutter contre l'obscurantisme qui veut nous priver de liberté d'expression.
Merci, monsieur. Bonjour.
Bonjour.
Quel âge avez-vous, s'il vous plaît ?
17 ans.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Pour défendre les valeurs de la liberté.
D'accord. Vous avez déjà lu Charlie Hebdo ?
Non.
Vous s'y mettre alors ?
Oui. Mais je connais les caricatures, mais je ne l'ai jamais lu.
D'accord. Et vous, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 17 ans.
Vous aussi ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Bah, aussi pour défendre la liberté, mais aussi pour protester face aux djihadistes, aux extrémistes religieux, parce que, et pour dire qu'ils nous feront pas peur, et qu'on est là. Et je pense que aussi, c'est beaucoup de personnes, on est très nombreux et il y a beaucoup de personnes qui pensent ça.
D'accord. Et vous pensez que la caricature est une bonne arme contre l'obscurantisme ?
Je pense, oui.
Et le rire aussi ?
Évidemment.
Je sais pas. Merci beaucoup. Et oui, c'était quelques impressions de manif. Donc, c'était dimanche. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir si tous les trois, vous avez été à la manif et savoir pourquoi vous y étiez présents. Parce que je pense que parmi nous... alors, la question s'était posée, est-ce que nous sommes Charlie ? Puisque tout le monde portait effectivement... cette idée sur ses chaussures, mais il faut voir un petit peu quelles sont votre position par rapport à Charlie aujourd'hui. Peut-être Fabien, oui ?
Non, autant commencer par Ludovic. Je pense.
Ludovic, oui.
Écoute. Eh bien, écoute, tu es à la manif, bien sûr, donc c'est un geste de solidarité, c'est indispensable, à mon avis. Donc évidemment, tout le monde est atterré quand. Quand 10 personnes, 12 personnes se font abattre comme des chiens dans une salle de rédaction, partie par mètre Kalachnikov, bon, ou de fusil d'assaut, je sais pas. Donc effectivement, c'est terrifiant, quoi. Et ça m'a ému. Parce que parmi les gens qui sont morts, il y avait des gens effectivement qui ont bercé notre enfance, hein, qu'on a tous lu, Cabu, Balinski, Charb. Mm. Donc c'est vrai que je crois qu'on a tous été vraiment
marqués,
bouleversés, quoi. Donc c'était terrible. Et je trouve que la manifestation, c'est bien qu'il y ait eu cette manifestation parce que ça indiquait aussi, moi je l'ai compris comme ça, hein, c'est-à-dire que un refus, de bien distinguer, si vous voulez, des extrémistes religieux, des islamistes, de la communauté musulmane.
Tout à fait.
Et je trouve que là, il y a eu un élan effectivement de solidarité nationale qui visait quand même à montrer que personne ne cautionnait ce genre d'acte. Enfin, en tout cas, très peu de gens, j'espère. Et donc voilà, donc je trouve que cette manif de ce point de vue-là était réussie. Voilà.
D'accord, merci Ludo. Hervé, tu as été à la manif
Oui, j'étais à la manif. Et comme Ludo, j'ai trouvé ça impressionnant. Il y a des millions de personnes. Mais je pense que c'est aussi un événement qui nous a tous marqués, qui va nous marquer à vie. Et c'était important d'être là à ce moment-là.
Et toi, oui, Fabien?
Mais moi aussi, j'étais à la manif. Donc par contre, moi j'y suis allé parce que. Enfin, dans un contexte où dans les milieux, on va dire, que nous fréquentons tous ici, plus ou moins autour de la table, les milieux de gauche, enfin, je sais qu'il y a des gens qui se sont posé la question d'y aller ou pas.
Bien sûr.
Moi, régulièrement, j'ai des doutes. Je ne suis pas quelqu'un qui soit rempli de certitudes. Sur cette manif, j'ai eu des certitudes. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est quoi cette manif? C'est rendre hommage à des gens qui se sont fait tuer. Déjà, donc, rien que ça, ça vaut la peine. En plus, ils se sont fait tuer en partie parce que, pour les journalistes, parce qu'ils exprimaient des idées, qu'ils plaisent ou qu'ils plaisent pas, et je pense qu'il y avait pas photo. Par contre, je suis très inquiet, et on en parlera après, mais par le fait qu'il y ait des gens, enfin très inquiets. Je pense que ça interroge. Il y a tout un tas de gens qui sont dubitatifs, etc., qui n'ont pas voulu aller à la manif, parce qu'il y avait Netanyahou, parce que ci, parce que ça. Ces gens-là, je pense que c'est des récupérateurs. Je pense que derrière, il y a beaucoup de gens qui essayent de... Enfin, beaucoup. Il y a des gens qui essayent de tirer les ficelles. De récupérer, il ne faut pas tomber dans leur piège. Et le message, je pense, des manifestants, qui étaient quand même fort nombreux, même plus que nombreux, c'était de dire, on n'a pas le droit de tuer, soyons humanistes. En fait, c'était une manif à tonalité humaniste. J'oserais pas dire progressiste, mais je pense que c'était proche quand même du... C'était quasiment, à mon avis, une manif de gauche, même s'il y avait des gens de droite. Enfin, voilà comme je le ressens. Non, mais sérieusement.
D'accord. Alors, moi, j'y étais aussi. Alors, j'y étais pour prendre un peu de son, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Mais moi, j'étais un peu surpris des pancartes, quand même, parce que, personnellement, je suis athée. Voilà. Et,
Bouh,
voilà. Et j'ai vu des pancartes où il est marqué, donc, musulman.
On dit laïque intégriste, hein.
Si tu veux.
Pas selon Charlie. Hein.
Oui. Il y avait des pancartes où il est marqué musulman, juif, chrétien, tous ensemble, machin, etc. Et il n'y avait pas les athées sur la pancarte.
C'est vrai qu'on est souvent oublié.
Oui, c'est souvent oublié. Et j'ai posé la question à une des filles qui avait fait la pancarte en lui demandant pourquoi il n'y a pas marqué les athées. Elle me dit, mais si, il y a marqué les athées parce qu'il y a marqué paix au-dessus. Donc paix, ensuite musulman, chrétien, juif, paix. Donc comme il y a paix, il y a automatiquement les athées. Ouais, ça se discute, ouais. Évidemment. Alors par contre, il y a une chose, c'est que moi, ce qui m'a quand même surpris, en dehors du fait qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue et parmi tous ces gens, pas beaucoup avaient lu Charlie avant, évidemment, cet événement, ça va de soi. Donc, pour parler de ce journal, il faut au moins l'avoir lu ne serait-ce qu'une seule fois, je pense. Voilà. Mais c'est bien quand même de faire un acte de solidarité, hein, évidemment. C'est quand même, je tiens à dire ici que nous partageons quelque part la tristesse des familles, des proches de ces gens-là que nous aimons, puisque quelque part, ces dessinateurs, nous les avions tous, en tout cas nous les quatre, remarqués dans le journal, et puis on appréciait ces dessins, on riait avec, etc. Parfois, on trouvait qu'ils étaient un petit peu... Moi-même, j'ai trouvé qu'ils étaient parfois ils étaient un peu forts, ils étaient un petit peu agressifs. Mais c'était ce côté irrévérencieux, un peu libertaire, un peu caca-pipi, quelque part aussi, évidemment. Mais ça, c'était quand même une note tout à fait démocratique, en fait. Je veux dire, c'est, la liberté d'expression passe aussi par ça. C'est-à-dire que quand je posais la question à un mec en lui disant s'il y avait un attentat chez Rivarol, un journal d'extrême droite, vous seriez dans la rue, il me dit non, pour des questions de positionnement idéologique. En même temps, l'expression, la liberté d'expression s'adresse aussi aux gens d'extrême droite. Donc si on n'aime pas les journaux d'extrême droite, on ne les lit pas. Si on n'aime pas Charlie Hebdo, on ne les lit pas.
Tu parlais de Rivarol, parce qu'il y avait une question là, aux manifestants sur Rivarol. Le lendemain des assassinats, attentats, moi, dans le kiosque où j'ai l'habitude d'acheter mon journal, là, qui est... Bon, qui commence par un H, je veux pas faire de pub à l'antenne, c'est interdit, hein. Qui finisse par un A, je crois qu'il a été fondé par un Jean Jaurès. Il y avait quand même, ça m'a franchement marqué. En plus, c'est le kiosquier très fort sympathique. Enfin, il faut, bon, pour tout dire, il est même, on va dire, d'origine nord-africaine.
Pour tout dire.
Oui, non, mais je tiens à le préciser parce que bon, les kiosquiers, bon, déjà c'est des gens remarquables qui font un travail, qui sont au service de tous. Mais n'empêche que sur sa table, qui était dehors, il y avait un gros tas de rivarolles. Et là, ce kiosque, c'était dans le 18e arrondissement. Bon, je cite la station Lamarque. Et je me suis dit, ah là là, c'est incroyable. Bon, lui, son boulot, c'est de vendre des journaux, donc il n'a pas à discriminer des clients, quoi. Mais ça veut dire quand même que, autant là, en ce moment, Charlie Hebdo bat des records
historiques, carrément.
Historiques, oui, bien sûr, mais qui seront peut-être que temporaires. Par contre, il y a aussi d'autres journaux qui ont vu augmenter leurs ventes, et donc des journaux de droite dure, on va dire, pour pas dire extrême. C'est un peu inquiétant. Et il y a une autre anecdote en parlant de journaux, autre que Charlie Hebdo. Le lendemain donc des attentats, je prends le métro, toujours pareil, après cet épisode, et qu'est-ce que je constate ? Je constate que dans le métro à Paris, c'était comme la semaine d'avant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment personne qui avait un journal à la main, quoi. Là, il y a comme un effet de mode, enfin, de solidarité aussi, certes, mais enfin, les gens vont acheter en masse par millions, donc semble-t-il, Charlie Hebdo, mais le lendemain des attentats, personne n'a été acheté plus que la veille le journal. Là, c'est juste sur ce numéro de Charlie Hebdo qu'il y a des foules qui achètent un journal. Mais ça me paraît pas forcément très bon. Voilà, ça m'interroge sur le fait que les gens manifestent en masse pour la démocratie, mais j'attends de voir si en masse ils vont se battre pour la démocratie, se battre en tant que citoyen, et ça passe aussi ça par acheter le journal. Et malheureusement, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent le journal.
Faut-il que les journaux répondent aux attentes ouais, c'est sûr, répondent aux attentes de leur lectorat, hein, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Je veux dire, c'est normal que quand il y a un événement qui touche des gens, donc en l'occurrence, là, c'est vraiment le cas, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, c'est normal qu'effectivement qu'on court acheter le journal, et je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'on a acheté que Charlie Hebdo, c'est pas vrai.
Aujourd'hui,
il n'y a plus de Canard, par exemple.
Oui,
évidemment, c'est le journal le plus proche. Hein. Mais il y a aussi des gens qui se sont rués sur Le Monde, qui ont des problèmes de parution. Et donc, globalement, les gens, non, on voulait être surinformés. Mais c'est tout le problème de la presse en ce moment. Hein. C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas beaucoup concernés, effectivement, par ce qui se passe, y compris de plus en plus à côté de chez eux, on va dire, et a fortiori le plus loin. Donc, le désintérêt politique de la population, il vient aussi, enfin, pour une part seulement, des responsables politiques et des politiques qui sont menées. Voilà, donc enfin... Et voir parfois de la ligne éditoriale des journaux qu'on nous présente, quoi, puisqu'il y a pas, il y a quand même pas beaucoup d'offres politiques en termes de presse, quoi. Je trouve, hein, pour ma part.
Alors moi, je m'excuse. Après, il y a beaucoup de gratuits en ce moment, et je pense que tous les gens sont précipités sur les gratuits, et la presse est victime aussi un peu de tarifs, des fois un petit peu excessifs. Hein.
Je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a une forme de désintérêt aussi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et donc même les gratuits, on pourrait s'attendre, puisqu'ils sont gratuits, parce que dans un wagon de métro à Paris, il y a 8 personnes sur 10 qui ont un gratuit dans les mains. Or, c'est 1 sur 10, même pour les gratuits. Hein. Enfin, comptez, faites le compte dans une station dans un wagon RATP. Moi, ça me... 8 sur 10, c'est un... Je ne vais pas citer de marque, mais c'est un iPhone avec des écouteurs aux oreilles. Ce n'est pas un journal fut-il gratuit qu'ils ont dans les mains. Enfin, moi, c'est une observation perso. Ouais.
Non, mais si tu veux dire que les gens sont moins politisés qu'auparavant, donc c'est possible, ils sont peut-être politisés différemment aussi. Hein. C'est-à-dire que la politique devient comme la religion, c'est-à-dire que elle se fait à la maison. C'est un peu ça, on parle de laïcité. Elle touche aussi la politique. Elle se fait à la maison, et puis il y a une espèce de consensus mou. Quand on va à l'extérieur, hein, pas de polémique, pas de choses comme ça. Bon.
Alors moi, j'aimerais quand même réagir encore. Juste une chose sur la dernière chose en ce qui me concerne sur la manifestation. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que la récupération politique derrière tout ça, c'est que ce qui devait être une manifestation populaire, qui vient comme ça, on a envie de sortir dans la rue pour défendre l'expression libre, etc., est devenue une organisation par M. François Hollande en invitant 50 chefs d'État, qui pour la plupart défendent la libre expression ailleurs, mais chez eux, elle est souvent enchaînée, etc., etc. Je dis pas les noms parce que tout le monde les connaît, mais c'est quand même un peu surprenant d'avoir quand même des gens qui ont envoyé des ambassadeurs ou des premiers ou des ministres ou même des responsables politiques de premier niveau qui bâillonnent la liberté d'expression chez eux, qui viennent défendre la liberté d'expression chez les autres. Moi, ça m'a carrément fait chier, je peux le dire carrément comme ça, parce que voilà, j'ai l'esprit Charlie aussi, hein, je peux dire les choses telles quelles. Donc, qu'est-ce que tu, toi, Fabien, est-ce que tu as été aussi choqué par cette récupération politique de première instance?
Ah oui, je suis parfaitement choqué. Par contre, c'est ce que je. Par contre, je me suis posé la question, moi, parce que moi, j'ai des copains, des camarades, là où je milite, qui n'ont pas voulu y aller un peu pour ça. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller ou pas à la manif? Et je pense qu'il fallait aller à cette manif, il fallait que les organisations, que ce soit associatives, syndicales, politiques, etc., ils appellent à y participer. Et je pense que les gens que tu cites, c'était les deux premiers rangs de la manif. Faut pas oublier qu'il y a eu 4 millions de manifestants. Donc, parce qu'il y a 20, on parle de 20 personnes là. Hein, on parle pas de 4 millions. Et ces gens-là, ils se sont focalisés sur ces 20 personnes, les Netanyahou, les Orban, les compagnies.
Tout à fait.
Et effectivement, le gouvernement français a participé à cette récupération qui a déplu à une partie des Français qui sont pas venus du coup manifester parce qu'on aurait été peut-être encore plus nombreux s'il n'y avait pas eu cette
récupération
un peu facile. Et d'ailleurs, au départ, je crois que c'était des associations, des partis de gauche, je crois plutôt. Je ne sais pas si le PS est dedans, je ne sais plus, qui avait lancé l'idée d'une marche en hommage aux victimes. Et effectivement, le gouvernement là n'a pas été très. Enfin, moi, c'est à titre personnel, je pense qu'il a joué un drôle de jeu là dans cette affaire avec ses chefs d'État et tout ça, qui ont focalisé l'attention et qui ont et ce faisant, n'a pas participé à l'apaisement nécessaire de la société française, qui en ce moment, visiblement, bouillonne.
Merci. Ludo.
Alors moi, je voudrais dire une chose quand même, hein, c'est que là, on est dans l'émotion, donc il y a une espèce d'union nationale, et c'est tant mieux. Et donc, une fois que ça sera passé, bah, il faudra quand même le moment de se poser des questions quand même. Alors, on est bien obligé, quoi. Et donc les questions qu'on doit se poser, hein, dont par exemple ce dont disait Fabien, ça en fait partie. Bon, c'est de savoir un peu comment dire. La vraie question, c'est celle de la liberté d'expression. Donc en France, on a une tradition, ça ne se discute pas. Et donc on publie ce qu'on peut publier. Et voilà. Mais bon, la vraie question, par exemple, il y a des questions qu'on a le droit de se poser. Par exemple, l'engagement à l'extérieur de la France. Je veux dire, l'engagement sur les conflits, alors justifié, pas justifié, je veux dire, c'est des vraies questions, hein, au Mali, bon, sur Daesh, etc. Donc, qui nous revient, bon, bah, ça, on le savait, de toute façon, en boomerang. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a aussi l'état de la société française actuelle. Je veux dire, je n'ai un chiffre, je crois que c'était Hakim El Karoui qui avait cité un chiffre dans un journal. Bon, un quart des personnes qui partent en Syrie sont des gens qui sont convertis. Un quart sont des femmes. Je veux dire, et les gens donc qui ont fait ça, enfin qui sont des assassins et des meurtriers, sont nés en France, même pas dans la banlieue parisienne, mais dans les banlieues de Nantes. C'était des Français. Ils étaient de confession musulmane, mais ils avaient vécu toute leur vie en France.
Vie en France, bien sûr.
Voilà, et c'est ces gens-là qui ont fait ça. Et je veux dire, on a quand même le droit de se poser la question quand même de l'état de la société française aujourd'hui qui permet ce genre de choses. Et de l'état de désespérance dans lequel se trouvent des populations marginalisées. À un point qui les conduit à des actes épouvantables. Voilà, il y a cette espèce de nihilisme qui est actuellement pourri par le bas, hein, la société française. Voilà, et je suis très modéré dans mon propos.
Est-ce que tu veux sous-entendre par là que les interventions extérieures de la France, c'est une tentative de colonisation à nouveau déguisée ou...
Écoute, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un néocolonialisme. Hein, c'est-à-dire que les intérêts... Alors évidemment, au Mali, bon, on ne sait pas, mais les intérêts au Moyen-Orient sont toujours très clairs. Quoi, hein, mais ils n'ont jamais été assumés pleinement, ni par les... En tout cas, pas par les États-Unis. Hein. En 2001, l'invasion en Irak, maintenant, ça n'a rien à voir avec le pétrole. Et aujourd'hui, voilà. Et évidemment qu'il n'y a pas que le pétrole, bien entendu. Mais oui, quand on parle de néocolonialisme, c'est qu'effectivement, en tout cas, la défense des intérêts de l'Occident, ça en fait partie. Ça, c'est évident. Après, effectivement, la lutte contre Daesh, c'est un problème, quoi, c'est sûr.
Enfin, ceci dit, quand tu parles de Daesh, etc., tout ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, est-ce qu'on peut qualifier ça de lutte anticoloniale? Ça reste à voir, quoi.
Non, mais attention. Je veux dire, il y a quand même un double discours de l'Occident qui consiste à effectivement, lutter contre Daesh, tout à fait, c'est très bien. Et même des gens, je veux dire, qui défendent la liberté d'expression, comme tu l'as dit. Mais enfin, ça n'a jamais posé problème ni aux États-Unis, ni à la France, ni à qui que ce soit, d'avoir les meilleures relations possibles avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, les pays où les droits de l'homme ne sont absolument pas respectés, la liberté d'expression n'est absolument pas respectée, et dont certains financent le terrorisme. Quand il y a un problème là-bas de liberté d'expression, donc je crois qu'il y a un cas récent en Arabie Saoudite où quelqu'un a été condamné pour juste
10 ans du blasphème. Et 1000 coups de fouet. Donc pour voilà, avoir dit simplement, je ne veux pas croire en Dieu.
Les chancelleries occidentales sont certainement pas les premières à se disputer. Donc, si vous voulez, l'intervention occidentale sous couvert de droits de l'homisme pendant une période, c'était quand même un peu le paravent. Puis ça a été la démocratie. C'était pour l'Irak, de plus en plus, on a l'impression quand même que la défense de ses intérêts reste toujours quelque chose qui est en sous-main, mais qui n'est jamais tout à fait affiché, et qui, effectivement, se heurte à des contradictions qui sont évidentes. Je ne sais pas qui... Je ne crois pas que le roi Fahd a été invité. Enfin, le roi du Maroc l'a été. C'est pas le champion de la liberté de la presse, hein.
C'est clair.
Donc, je veux dire, et aussi, ça pose un problème aussi, quand même, pour les journaux qui dénoncent, si vous voulez, en permanence le terrorisme, l'islamisme, qui vient dans des pays qui sont en état d'implosion et qui n'existent plus. Bon, ça serait bien qu'ils le fassent un peu plus fréquemment pour l'Arabie Saoudite. Enfin, pas que, mais vous voyez, qu'il y a aussi une réflexion là-dessus.
Alors moi j'ai l'impression quand même qu'on a connu dans les années précédentes, les décennies précédentes, les blocs, les conflits de blocs entre l'Est et l'Ouest. Après ça a été le Nord et le Sud, hein, donc voilà. Mais là on retourne sur on veut nous faire croire que c'est le siècle des Lumières contre l'obscurantisme absolu. C'est un peu facile, j'ai l'impression quand même, parce que j'ai l'impression, c'est une impression, donc j'ai aucun savoir sur le domaine, hein, puisque c'est très complexe l'islam, évidemment. J'ai l'impression que c'est plutôt la guerre entre la pauvreté et la richesse.
Là, je suis plus d'accord à ce que tu dis qu'avec ce que vient de dire Ludovic, en fait. Qui me paraît être une sorte de raccourci, je sais pas comment dire.
Allez, je t'en prie.
En fait, par exemple, dans la manifestation, effectivement, l'énorme majorité des pancartes, etc., des slogans que j'ai vus me paraissaient positifs. Moi, il y en a un qui m'a marqué, c'était « Nous sommes le monde civilisé ». Celui-là, effectivement, je me disais, celui-là, je suis pas d'accord. Mais bon, la plupart, c'était « Liberté, égalité, fraternité ». C'est la plupart, c'était ça. Donc, l'énorme majorité des gens. Après, par rapport au conflit dans ce qu'on appelait le tiers-monde, etc., quand même, les conflits actuels, ça m'a l'air différent des luttes d'indépendance, pour lesquelles les partis de gauche en France soutenaient, et y compris comprenaient, d'une certaine façon, voire ont participé, pour certains, à des mouvements, comment dire, un peu qu'on pourrait qualifier de terroristes. En fait, eux, ils qualifiaient ça différemment à l'époque, le FLN et compagnie. C'était des attentats dont le but c'était de donner l'indépendance à leur pays. Enfin, faut replacer les choses dans leur contexte. Monsieur Koulibaly ne revendiquait pas l'indépendance du Mali ou le départ de Areva de je sais pas quel pays. Non, mais on n'était pas à, voilà. Donc il faut distinguer à mon avis les deux choses. Enfin, c'est par rapport à tout ça. Après, sur ce que disait Gilles, et après je te redonne la parole, Ludovic. On est en démocratie encore. Et toi, tu parlais de pauvreté tout ça. Moi, je peux pas empêcher de faire un lien entre ce qui se passe, donc grosso modo ces attentats qui sont en train de faire monter. Il faut lutter contre ça. Les haines entre les communautés. Et des théories qui ont été élaborées aux États-Unis, notamment par les néo-conservateurs, et notamment cette fameuse théorie du choc des civilisations. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent dans le monde, à qui ça rend service tout ça. Étant donné que les gens, du coup, s'ils se focalisent sur la haine de leurs voisins, ils oublient de se battre contre leur patron. Voilà. C'est, en gros, moi, c'est un peu mon analyse du sujet.
Je veux dire par là que ça occulte toutes les questions sociales et sociétales qu'on a aujourd'hui avec le chômage, etc.
Comme je te disais tout à l'heure avant l'émission, je pense que demain matin, s'il le voulait, le gouvernement pourrait faire passer la loi Macron, qui est une loi de régression sociale absolument épouvantable, comme lettre à la poste, étant donné que les gens sont absorbés.
Mais je ne vais pas être rassuré, c'est ce qu'il va faire. Hein.
Non, je voulais pas te rassurer. En fait, je voulais te. Non, c'était pas le bon. C'était un terme mal choisi, quoi.
D'accord.
Oui. Donc, moi, je voudrais répondre parce que quand même, je suis bien cause. Bon, évidemment que.
Non, bien cause.
Non, excuse-moi, mais bon, bref. Évidemment que c'est pas une lutte coloniale au sens. J'ai bien d'ailleurs parlé de néocolonialisme. Mais alors, évidemment, il n'y a pas de gens qui revendiquent quoi que ce soit. Il y a juste un souci, c'est que en 2001, par exemple, lors de l'intervention en Irak. Il ne s'agissait pas du tout de faire la police contre les islamistes. Il ne s'agissait même pas, alors, soi-disant, il s'agissait de libérer contre un tyran, etc., etc. Je veux dire, je crois que toute la presse française a été unanime et montée pour dire que c'était une agression, une guerre préventive. C'était une erreur aussi, mais une agression. Bon, bref. Voilà. Donc là, je veux dire, le néocolonialisme, au nom des intérêts américains ou de la sécurité, bon, bref. Et là, l'ingérence, elle était évidente. Bon. Je veux dire, en 2014, la situation qu'on a au Moyen-Orient, elle découle de cette implosion en Irak. Et, je veux dire, à ce jour, c'est la France qui prend en charge des intérêts occidentaux pour aller tenter, non seulement de juguler un État islamiste qui n'aurait jamais vu le jour sans l'intervention irakienne, mais en plus, je veux dire, avec une menace quand même certaine sur la sécurité, simplement des routes d'approvisionnement, sur les puits de pétrole, sur les choses comme ça. Voilà, de fait. Donc, quand je dis néocolonialisme, c'est plutôt un néocolonialisme à l'américaine, c'est-à-dire une défense des intérêts immédiats de l'Occident. Et c'est tout ce que je veux dire. Voilà, bien entendu que quand on va faire la police contre les islamistes, bah oui, c'est à la fin on est contraint de faire.
Alors, je vous propose d'écouter une petite chanson. Ensuite, nous avons un coup de téléphone pour la loi Veil. Et ensuite, on reprendra le débat.
Il y a de la joie. Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Et oui, c'était Charles Trenet, il y a de la joie. Bien sûr, cette chanson va dans l'esprit de Charlie, puisque vous avez pu remarquer, pour ceux qui ont pu le lire dans le Canard enchaîné, qui disait tout simplement que même avec ce qui vient de se passer, il faut continuer à rire et évidemment à sortir ses crayons et ses stylos pour écrire et pour dessiner. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil évidemment aux familles des victimes, à nos amis de Charlie qui sont morts sous les balles. En même temps, la question se pose si nous sommes ou pas Charlie. La question est très complexe pour le coup. Moi, comme Ludo le disait, comme certainement Hervé également et puis toi Fabien, j'ai été baigné avec Charlie, avec Harakiri, que j'ai beaucoup aimé. Seulement, il y a un petit virement, ça on pourra peut-être en parler avec Ludo tout à l'heure, un petit virement du journal à partir de Val, hein, de Philippe Val. On peut en discuter.
Philippe Val est à l'origine de la recréation.
Oui, c'est ça, tout à fait. En 97, je me souviens bien, c'est à peu près au moins.
92.
Et donc là, c'est vrai que je lisais un peu moins, même si j'aimais encore les dessins, mais par contre, les textes étaient un peu plus difficiles à apprécier. Voilà, donc je lisais moins souvent. Mais c'était un petit clin d'œil à Charlie. Alors maintenant, on va écouter quand même.
À ce propos, rappelons que Philippe Val, qui a des hautes fonctions à Radio France, je crois.
Qui s'est
permis de virer des humoristes.
Bien sûr.
Radiophoniques.
Bien sûr.
Parce que, et je reprends ces mots, Philippe Val qui a relancé Charlie. C'est là qu'il y a des gens qui sont dans une contradiction extrême parce qu'ils déplaisaient à l'actionnaire.
C'est ça, oui, ça c'est hallucinant.
Les gens qui vivent.
Alors je vous propose quand même d'écouter. Donc je fais une petite parenthèse dans le cadre de l'émission, puisque c'est quand même les 40 ans de la loi Veil aujourd'hui. Et donc on va écouter quelqu'un au téléphone. Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Catherine.
Oui, bonjour Catherine.
Du collectif Droits des Femmes.
Oui.
Donc je voulais annoncer la manifestation de demain pour les 40 ans de la loi Veil. Donc, départ à 14h30 de Bastille.
Oui.
Et en direction de l'opéra, l'opéra, le métro opéra.
Oui.
Et donc, le slogan principal, c'est « En avant toutes ». Et donc, on demande si il y a 6 revendications principales à pour cette manif.
Oui.
L'abrogation de la, je vais peut-être les citer.
Oui, vas-y, cite-les, bien sûr, Catherine.
L'abrogation de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Le maintien et le développement des services publics. Un centre d'IVG dédié par hôpital avec le choix de la méthode. Des moyens pérennes pour les associations qui donnent des conseils sur l'IVG.
Oui.
Le rétablissement et le développement et l'extension des ABCD de l'égalité qui avait fait grande polémique. Oui. Et la PMA pour toutes les femmes. Donc, en 65, on s'est battu, on a obtenu des droits nouveaux, et en 2015, il est grand temps de reprendre la lutte.
La lutte est flambeau pour défendre, évidemment, bien sûr. Je crois qu'il y a une réaction, excuse-moi, reste à l'antenne, hein.
Ah, oui.
Il y a une réaction de Fabien, oui.
Non, c'est par rapport à ce qu'a dit Catherine, quand elle parle de choix de la méthode, je crois qu'il faudrait expliquer aux auditeurs, parce qu'en fait, la méthode, c'est soit la...
Soit la méthode Kamman, soit la méthode
médicamenteuse
avec anesthésie complète, ou alors avec la méthode Kamman sans anesthésie.
Il faut expliquer ce que c'est que la méthode Kamman, alors, Catherine.
Par aspiration, donc sans anesthésie, c'est une méthode indolore, mais que ne choisissent pas forcément toutes les femmes.
Oui, parce que moi j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi un développement rapide, aussi par souci d'économie, de ce qu'on appelle les IVG médicamenteuses. On donne un cachet à une femme et ensuite...
Oui, il y a aussi l'IVG médicamenteuse, j'ai oublié, oui.
Qui n'est pas terrible en fait.
Alors, oui. Alors, non, je t'écoute. Vas-y, tu as quelque chose à rajouter, Catherine, sur le...
Non, je voulais dire qu'on était très nombreux et nombreuses, qu'il y avait donc des associations, des partis, des syndicats qui étaient signataires de cet appel à manif.
Très bien, je te remercie. En tout cas, c'est vrai que le droit à l'avortement reste fragile, hein, comme le dit effectivement votre tract. Il faut savoir quand même qu'il y a encore des gens qui manifestent contre l'IVG et qui considèrent que l'embryon est une personne. On parle dans cette émission de Charlie et des gens qui ont tué les sénateurs. Il faut savoir qu'en France, nous avons aussi notre part, hein, c'est-à-dire nous avons aussi nos catholiques intégristes, nos fascistes, etc.
Le fonctionnement des centres d'IVG depuis très longtemps.
Tout à fait. Donc je rappelle donc c'est à Bastille demain à 14h30, il faut y aller absolument, allez-y nombreux aussi, soyez au moins 3 millions de personnes comme pour Charlie, pour défendre évidemment les droits des femmes à ne pas enfanter, donc c'est quand même très important, et d'avoir au moins la possibilité médicale de pouvoir le faire. Sans être montré du doigt et sans être cristallisé, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est bien dit.
Oui, mais, oui, j'oubliais un des signataires que je voulais citer, c'était la maternité des Lilas, qui n'est encore pas fixée sur son sort, mais pour lesquels tous les signataires ont appelé aussi à des manifestations, des rassemblements, parce que la maternité des Lilas ne doit pas disparaître.
Bien sûr, d'accord. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas, de ton intervention.
Bonne fin d'émission et au revoir.
Ok, au revoir, à bientôt. Hein.
À bientôt.
Bonne soirée. Donc on referme la parenthèse, si vous voulez bien, pour reprendre cette émission sur, bien sûr, le problème Charlie, puisque finalement c'est devenu un problème quelque part, puisque en même en faisant cette émission, on avait beaucoup de mal à savoir ce qu'on pouvait dire ou ne pas dire, de peur d'être montré du doigt aussi. Hein. C'est-à-dire que on avait une, je me souviens, Ludo, on en a parlé avant de faire cette émission, sur qu'est-ce que, comment on doit le dire, comment on, voilà, c'est très compliqué. Mais pour l'histoire.
Le problème, c'est qu'on est dans une union nationale. Toute critique, donc en l'occurrence de Charlie, pourrait passer par un soutien à l'action terroriste. Évidemment, j'espère que personne ne soutient l'action de gens qui tuent des gens
gratuitement,
oui. Effectivement, et voilà, et en l'occurrence, qui font un carnage. Voilà, mais bon, si vous voulez. Je ne sais pas, peut-être qu'Hervé, vous voulez réagir, ouais, peut-être, plutôt.
Non, malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui soutiennent ce type d'intervention, puisqu'ils ont réussi à la faire, et qu'il y a sûrement des gens qui les financent, qui les aident, et qui participent
bien
à
sûr.
Ça.
Bien sûr.
Après, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'aujourd'hui, il y avait une confrontation riche-pauvre, ce qui est sûrement vrai. Je pense que dans le cadre là, de l'attentat contre Charlie Hebdo, je ne vois pas du tout le rapport entre une... Oui. Entre des
ce que je veux dire, c'est que peut-être que je peux expliquer, enfin, en quelques mots, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont pris, qui sont français, comme on a dit tout à l'heure, qui viennent certainement, sans doute, j'ai pas été regardé dans les journaux pour le coup, mais qui viennent certainement, sans doute, de la région parisienne, c'est-à-dire des banlieues, d'accord, ce qu'on appelle les banlieues rouges, on va dire, les anciennes banlieues rouges, donc dans les genre 93, etc. Genre les banlieues les plus qui étaient anciennement marxistes ou communistes, en tout cas, ou crypto-communistes, je sais pas comment le dire.
Oh, crypto.
Non, je plaisante, c'est pour faire réagir Fabien.
Non mais ce sont des départements vivants, ils sont pas crypto, quoi.
C'est pour faire réagir, tu vois, faut avoir un peu d'humour quand
même. Ouais.
Et donc c'est vrai que c'est quand même, on a quand même, la France a fait quand même quelque chose de très fort depuis des décennies, c'est de ghettoiser quand même les populations, et on a effectivement dans certains quartiers comme aux États-Unis, c'est-à-dire on a une avenue complètement portoricaine aux États-Unis, une rue complètement espagnole, ceci. Et là, on est en train de faire la même chose ici, c'est-à-dire que de façon différente. Mais on a, et donc on s'étonne qu'il y a des crispations dans les communautés, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits de non-droit, comme on dit pour le coup, et que là, on est, c'est pour ça que c'est ça qu'il y avait des pauvres contre les riches.
C'est quoi une ghettoisation ? C'est un abandon.
Un abandon.
C'est une fuite des gens aisés. De ces
quand tu parlais justement de la confrontation riche-pauvre, je m'excuse, je pensais que tu parlais par exemple du sud de l'Afrique, tout ça, contre l'Europe qui, elle, est plutôt sanctuarisée, qui est plutôt riche et qui est tranquille.
Oui aussi.
On ne parlait pas...
L'Europe est riche, mais il n'y a pas que des riches en Europe.
Il n'y a pas que des riches, évidemment. Mais je pense que quand il parlait du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, et après il parle des riches contre des pauvres, je savais plus.
Moi, je voulais juste rebondir sur un truc que tu viens de dire, Ludo, parce qu'on vit une époque, je pense, où là, enfin, à ce moment, tout le monde est à fleur de peau, là, et les choses sont sensibles. Tu disais, Charlie, on a le droit de critiquer Charlie, bien sûr. Bah, tu parlais de Val au début, enfin, etc.
On en a pas parlé.
Sans Val, enfin, on peut critiquer, mais bien entendu. Mais je pense qu'y compris les gens, y compris les musulmans, qui ont été pour certains choqués parce que le prophète, dans leur culture, on le dessine pas, etc. Y compris chez ces gens-là, je pense pas qu'on puisse dire. Je pense qu'ils sont choqués par les meurtres. Il faut pas oublier ça, et parce qu'il y a aussi des gens de droite, voire d'extrême droite, genre Éric Zemmour et compagnie, qui disent voyez bien les musulmans. Au fond d'eux, ils pensent, ils l'ont bien cherché. C'est pas vrai. Les musulmans, ils étaient pas forcément d'accord avec la ligne éditoriale de Charlie.
Absolument.
Mais ils sont absolument pas d'accord avec le fait qu'on tue des gens. Il faut pas
faire d'amalgame.
Je dis ça parce qu'en ce moment, c'est pour pas qu'on y ait les auditeurs qui fassent la moindre confusion sur ce qu'on dit. Quoi.
Justement, je pense que vous avez tous lu le dernier Charlie. Tu voulais peut-être réagir, excuse-moi, Ludo. Vas-y.
Je veux dire.
Mais entendu, après, t'as le droit de critiquer Charlie tant que tu veux. Moi, je voulais juste dire ça pour pas que, inconsciemment, il y a des gens qui croient que.
Mais non, c'est pas la question, mais simplement, justement.
Je sais pas quoi.
Justement, c'est bon. Vous voyez, j'ai un article qui s'appelle, que je recommande, que les gens arrivent à se le procurer, qui est de Shlomo Sand, donc celui qui a écrit l'invention du peuple d'Israël, qui titre Je ne suis pas Charlie. Et donc, il explique pourquoi il n'est pas Charlie. Il dit en résumé, donc, en version courte, il n'est pas bien, grosso modo c'est ce qu'il dit, hein, il n'est pas bien de, si vous voulez, de prendre pour cible une religion qui est minoritaire dans un pays et dont les gens sont marginalisés, les gens sont dominés en quelque sorte. Et il dit, et lui il est israélien donc il peut se permettre de dire ça, Donc, par exemple, représenter le prophète avec une grenade sur la tête, par exemple. Hein, il dit exactement dans son article, il y a en 1900, à la fin du 20e siècle, ce type de d'assimilation, en l'occurrence islam et le terrorisme, c'est un peu comme si à la fin du 19e siècle, on assimilait les juifs à les juifs, donc pris dans leur globalité, à des usuriers, à des gens qui aiment l'argent. Et il dit, et bien sûr que Charlie Hebdo ne représentera pas jamais, et heureusement, un rabbin au coin d'une rue avec un air d'usurier. Vous voyez ? Et moi, je trouve ce parallèle assez intéressant parce qu'en plus, il rebondit sur le livre de Houellebecq. Donc Houellebecq qui imagine un président musulman en 2020, je crois, voilà, ou en 2030, à la présidence de la République, quelque chose de tout à fait improbable, et qui est extrêmement bien accueilli dans tous les médias. Évidemment, c'est M. Houellebecq qui a beaucoup de talent. Et il dit, bah, vous savez quoi, la France juive de Louis Drumont en 1800, je ne sais pas combien, donc à la fin du 19e, était déjà un succès avant même d'être paru. Et je trouve le parallèle tout à fait intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez, décontextualiser le terrorisme islamiste, et simplement pour en faire de la dénonciation, de la pure dénonciation de base, et parfois déraper, non, parce qu'ils ne l'ont pas fait systématiquement, mais oui, déraper à un moment donné, au sens assimilé à peine un peu comme ça, l'air de rien, l'islam au terrorisme, alors il. Là, c'est exceptionnel. Ils ont reproduit des caricatures d'un journal d'extrême droite. Mais
danois,
ça pose problème. Bon, ça pose problème. Et globalement, la ligne éditoriale, et je parle bien de la ligne éditoriale, hein, je parle pas forcément des caricatures, la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, bon, bah, moi, j'attends qu'on m'explique ce que c'est que l'islamo-gauchisme.
Exactement.
AFPP, on n'est pas représentant de la gauche radicale, hein. Je veux dire, il y a des gens de la gauche radicale. Oui.
Ah oui.
Voilà, on n'est pas représentant de toute la gauche radicale.
Bien sûr.
Je suis désolé, je n'ai pas rencontré un islamo-gauchiste. Je sais pas ce que c'est.
Non.
Voilà. Alors, par contre, je trouve que leurs éditos sont très anti-banlieue, anti-jeunes de banlieue.
D'accord. Voilà. Par contre, on est pro-palestinien. Donc, ça, c'est peut-être là qu'il y a eu, un amalgame. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme, ce que ça veut dire pro-palestinien, je ne sais pas trop. Enfin, la question est posée parce que.
Ça, c'est leur soupe intellectuelle. Moi, j'ai pas de réponse à cette espèce de néoconservatisme qu'on entend régulièrement dans leurs éditeurs. Et s'il y a des gens qui sont pas d'accord ici, qu'ils le disent tout de suite.
Mais c'est quoi l'islamo-gauchisme?
Mais
c'est Shlomo Sand. Il faudrait que tu nous expliques qui c'est qui a écrit cet article pour qu'on puisse.
Il faut le replacer. Enfin,
pour qu'on.
Il y a des auditeurs là. Donc Ludovic, tu te sens visé visiblement quand tu lis l'éditorial là du Charlie Hebdo de ce jour qui attaque les islamo-gauchistes en les mêlant aux plus ou moins responsables de la situation actuelle en fait. En fait, quand il y a des gens. Qui pensent pas comme toi, c'est leur droit, hein, faut pas l'oublier. Qui taxe une partie de la gauche d'islamo-gauchiste, c'est sûr, c'est comme une insulte, c'est une vindicte, on n'explique pas ce que ça veut dire. Ça, sous-entendu, ces gens-là disent oui, il y a des gens, ils soutiennent les musulmans, donc forcément, ils sont des soutiens des terroristes. Et donc, à ce sens-là, toi, tu réagis, et t'as raison. Mais les gens qui. Enfin, parmi les gens de gauche qui soutiennent beaucoup les défavorisés, les gens des banlieues, bon, dans les banlieues, on sait bien que dans les banlieues parisiennes, il y a beaucoup de gens d'origine musulmane, on va dire, enfin nord-africaine, enfin, etc., africaine, tout court. En fait, il faut pas faire de. Moi, je crois qu'il y a un principe, on est en France, on a un principe, c'est la laïcité.
Absolument.
Donc, ce que tu vois, Ludovic, ce qui me fait peur, c'est qu'on laisse ce concept de laïcité, qui est le concept du vivre ensemble, le respect de toutes les religions. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas de religion, on les oublie souvent. Mais il ne faudrait pas laisser, surtout pas laisser ce concept à des néocons, genre, jetons un nom en pâture, du genre Madame Fourest ou compagnie, là, hein, qui ont écrit effectivement dans Charlie Hebdo. Parce qu'effectivement, dans Charlie Hebdo, il y a eu des plumes qui étaient, enfin, que moi aussi je qualifie de néocons. Enfin, néoconservateurs, néocons.
Oui.
Voilà, compte tout court, quoi.
Oui,
voilà.
Je cite juste l'instrumentalisation, donc c'est les charognards du complot. Donc c'est l'article de Charlie Hebdo, en deuxième de, de couverture. Donc c'est Jean-Yves Camus qui le signe. Et donc ça parle du complot, évidemment, hein, qui fleurit sur les forums. Et là, il dit, bon, évidemment, il parle du réseau Voltaire, d'accord. Si on laisse de côté les indécrottables tarés de l'ultra-droite antisémite, pour qui tout est sioniste et juif, il ne faut pas se leurrer, ce complotisme est un problème de la gauche radicale et de la sous-culture islamo-gauchiste qui sévit sur les forums. Bah, écoutez, je veux dire, ok, le complotisme, bon, c'est... Hein, c'est un truc complètement délirant, on est bien d'accord. Par contre, je ne vois pas très bien ce que la gauche radicale peut avoir à faire avec ces attentats, par exemple.
Bah aucune relation.
Ce que j'essaye de dire, c'est que des éditos comme cela, moi j'en ai lu quand même beaucoup. J'ai arrêté de lire Charlie à cause de ça. Hein,
oui, bien sûr.
Alors que dans les années 98 justement ou 2000. Il y avait des choses extraordinaires. Hein,
bah, Cavana, déjà, c'était génial.
Cavana, bien sûr, mais même, il faisait un truc très critique avec des économistes. Bon, et au bout de 4-5 éditos comme ça, où vous dénoncez les... C'est même pas... Je me sens visé, d'accord, à gauche, mais aussi les jeunes de banlieue. Mais il faut voir les éditos sur les jeunes de banlieue. Hein,
oui, c'est clair. Et
sur les émeutes aussi.
Oui,
sur... Bon, voilà, donc...
Après, ce qu'il faut voir, c'est que tu réagis fortement à un éditorial... qui met en cause une partie de la gauche française et qui fait un lien avec les attentats, et c'est en ça que ça te révolte, et je suis parfaitement d'accord.
Il parlait du complot.
Mais moi maintenant, oui, le complot, vrai, oui, mais les complots, ça a eu existé. Il y a eu un complot américain contre Pinochet, celui-là il a existé.
Non, mais bien sûr,
après il y en a qui sont inventés en grand nombre, effectivement, si on écoute Dieudonné, il en invente beaucoup, mais il y en a des fois qui existent, du coup, bon voilà, ça crée un terreau. Et là... Cet article, en fait, pointait du doigt des responsables. Mais par rapport, si on en vient à l'islamisme, les terroristes islamistes, enfin, cette mouvance, là, un peu, on ne sait pas trop ce que c'est, il faut. Tu vois, c'est dommage, il faut bien préciser aux auditeurs, enfin, quand même, que, y compris le gouvernement français, y compris François Hollande, je crois que c'est en décembre dernier, en décembre 2014, hein, décidé de filer je sais pas combien d'armes à des groupes opposants au président syrien, qui certes n'est pas le dernier des saints, mais enfin quand même, et dans ces groupes-là, on sait très bien les frères Kouachi et compagnie sont allés faire un tour là-bas, quoi.
Oui,
donc je veux dire, là, on a quand même des dirigeants occidentaux, je veux pas pointer du doigt François Hollande, même si le Parti Socialiste a sa part de responsabilité dans tout ça. Enfin, moi, je crois qu'il faut pas oublier de le dire. Comme l'UMP en a armé plus d'un de givrés en Libye pour dégommer
bien sûr,
Kadhafi.
Bien sûr.
Comme les Américains ont armé Ben Laden, etc., ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc, effectivement, tout ça, je pense que ces gens-là ont plus de responsabilités dans les attentats qui sont survenus à Paris la semaine dernière. Que Olivier Besancenot, ou je sais pas, c'est ton idole, mais enfin bon, les gens de cette mouvance là, quoi.
Je voilà. Ne dis pas le contraire.
Non, c'est pour replacer les choses dans leur contexte, c'est pas pour te contredire.
C'est bien le problème, en quelque sorte, hein, quand je te parle de la défense des intérêts de l'Occident, bah, c'est ça aussi. Alors, voilà.
Ouais. Et moi, pour rebondir sur ce que tu disais, les islamo-gauchistes, les islamistes, etc., moi, il y a quand même une proposition qui est sortie du débat, alors je sais pas d'où elle sort, je crois qu'elle sort de la droite. Mais des fois, on entend aussi. Ah ben, excusez-moi, mais moi j'ai une dent là en ce moment contre le gouvernement, mais bon, je crois que ça venait de la droite ce coup-ci, d'interdire à ces Français qui sont partis en Syrie faire le djihad de revenir sur le territoire français. Moi je crois qu'il faudrait s'interroger sur rendez-vous compte de la gravité de sa situation. Ça veut dire la société française génère des gens qui déraillent, mais on n'en veut pas chez nous, on les envoie chez vous. Par contre, ceux de chez vous qui viennent chez nous pour bosser, là, faire le ménage dans les tours à la défense, s'ils n'ont pas de papier, on les expulse. Là, ça ne va plus du tout, du tout.
Tout à fait d'accord. Alors, tu veux, Hervé, oui.
Oui, juste là pour rebondir, c'est effectivement, c'est carrément leur enlever la nationalité française et leur dire, vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus rien, vous êtes des apartheid. Vous n'appartenez à plus aucun pays. Mais bon, ça serait.
C'est aussi ne pas assumer comment dire. Ce que génère la société française, c'est-à-dire que quand on est dans une société qui génère des conflits, des gens un peu déraillants, c'est à notre société à gérer le problème, quitte à les juger, les mettre en prison, les rééduquer. Enfin, c'est à nous à gérer notre problème. Enfin, quand même.
Oui, juste. Et après, pour la Syrie, c'est vrai que c'est compliqué entre Bachar el-Assad et donner des armes à des combattants.
Bien sûr. Je veux dire,
pas les tous dessins, effectivement.
Non, mais les États-Unis, quand ils pratiquent un embargo, alors je me souviens de la Bosnie, par exemple, c'était typiquement ce type d'argument. On ne va pas armer des gens, voilà, dont on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, ouais, c'est très compliqué. Et effectivement, personne ne pouvait supposer que Daesh prendrait le pas sur sur les autres mouvements.
Une partie en Mali, c'est pareil. Hein.
Oui. Alors, attends, excuse-moi. En tout cas, non, excusez-moi de vous interrompre, mais. Je pense pas qu'on aura réglé le problème ce soir. Hein, de toute façon, c'est clair. C'est parce que cette émission va se terminer bientôt. Donc, je vais simplement dire que bien sûr que nous condamnons les attentats, ça va de soi, et que nous sommes près des familles qui des victimes. Qu'en même temps, nous essayons d'expliquer la situation telle qu'elle est complexe. Tellement elle est complexe. Hein, je sais pas si on y a réussi ce soir. Moi, je tiens quand même à dire que juste une petite annonce. Faut rappeler quand même que demain à Bastille, 14h30, faut aller absolument faire la manif pour le droit à l'avortement qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, faut pas occulter aussi tous les autres problèmes sociaux que la France essaye de régler, même si c'est très compliqué à régler, comme le problème du chômage, des retraites, etc., etc., de l'emploi, enfin bref, de la précarité, des sans-abri, etc. Ça, tu vois. Ce genre d'attentat, ça occulte tous ces problèmes qu'en fait, on n'en parle plus de ça, finalement. Donc, voilà. Donc, cette émission se termine. Merci, messieurs. Oui, excuse-moi.
Je voulais juste passer un petit message personnel, si j'ai le droit.
Vas-y, passe un message personnel.
Voilà, je voulais faire un gros bisou à Laure, qui m'a permis d'aller à cette émission ce soir.
Très bien, bisous à Laure.
Donc, gros bisous, Laure. Tout le monde t'aime très fort, et moi encore plus ici, autour de la table.
Très bien. Alors, cette émission se termine. Merci, messieurs, dames, de l'avoir suivi. Merci à vous trois de m'avoir aidé à faire cette émission. Merci à Claude pour la technique. Je fais un gros bisou à toutes les filles, toutes les communautés comprises, et aux athées également. Et puis, bien sûr, une grosse poignée de main aux garçons. Ciao.
Mais Laure, c'est moi qui fais les bisous. Hein.
Bonsoir.
Femme barricade au-delà des sangs, femme barricade pour tous les mendiants. De la butte rouge au bagne là-bas pour cette commune que je porte en moi comme une blessure.